Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous avons intitulé cette séquence « On tue le cochon », mais on pourrait aussi la nommer « La fête du cochon ». Pour les textes, nous avons puisé dans les ouvrages d'Albert Gourceau, la société rurale traditionnelle en Limousin et basse marche, Charles Sylvestre avec un extrait de « Pleine terre », Louis Peignot, « Bergère éternelle bergère », Monsieur Marquiset, « La fête du cochon », Michel Dupeux, Colette Marceau, Serge Bernard et Roger Poussif, le patois de la basse marche. Et enfin Michel Pastoureau, le cochon, histoire d'un cousin mal aimé.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Le cochon à travers les siècles. Dans son ouvrage, Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé, Michel Pastoureau écrit... Le porc est pour l'homme une véritable source de richesse. Sa chair est synonyme de ripaille. Son sang et ses boyaux finissent en boudin et saucisses. Sa graisse en chandelle, son cuir et ses tendons deviennent les cordes d'instruments de musique. Ses soies, des brosses et des pinceaux. Dans le cochon, tout est bon. Rarement un adage n'aura été aussi justifié. Issu de la famille des Suidés, c'est au début de l'ère tertiaire que le cochon apparaît en Asie mineure. Il colonise ensuite toute l'Asie, avant d'élire domicile en Afrique et en Europe. Bien qu'il lui fût longtemps affilié en raison de leur ressemblance, le cochon ne descend pas de son voisin le sanglier, mais du cochon sauvage. En effet, d'après les zoologues, il y a bien eu séparation dès la préhistoire, entre les ancêtres du sanglier et ceux du porc domestique. C'est au contact de l'homme que sa morphologie a considérablement évolué. Passant du stade d'animal sauvage à celui d'animal domestiqué et n'ayant plus besoin de chasser pour survivre, il devient plus petit, ses dents s'écourtent, son groin s'affine et sa peau noire s'éclaircit. Véritable nourriture spirituelle, le cochon trouve sa place dans la majorité des cultures où les diverses symboliques qui lui sont attribuées restent très manichéennes. Chez les Grecs, on l'associe à Déméter, la déesse de la fécondité et de l'agriculture. On raconte même que Zeus aurait été nourri par une truie qui lui aurait offert son lait. Chez les Égyptiens, on lui prête une image double, celle de la fécondité et celle de la malfaisance. C'est ainsi que les porchers étaient strictement interdits dans les temples. Dans les civilisations hébraïques et musulmanes, le cochon est un animal sale et maléfique. Moïse et Mahomet interdirent à leur peuple tout contact avec lui. Par contre, les Tibétains le vénèrent et le placent au centre de la roue de l'existence comme symbole de l'origine de toute chose. En Chine, il est un signe astrologique symbolisant la loyauté, la sensibilité, la non-violence et la soif de connaissance. Nous allons poursuivre notre histoire du cochon. Le cochon est un des mets très appréciés dans l'Antiquité, par les Romains, par les Grecs, par les Gaulois. La simplicité de son élevage en fera au Moyen-Âge l'animal le plus consommé devant le mouton et le bœuf. Au XVIIe siècle, Vauban voit dans l'élevage du cochon un moyen de lutter contre la famine. Il observe que cet animal est d'une nourriture si aisée que chacun peut en élever, n'ayant point de paysans si pauvres qu'il ne puisse élever un cochon de son cru par an. Un siècle plus tard, grâce à la diffusion de la pomme de terre dont on le nourrit, l'élevage du porc français est devenu un des plus dynamiques d'Europe. Si le porc est aujourd'hui, comme au XIXe siècle, élevé dans des porcheries, encore que chez nous, on disait « le toit au cochon » ou « le taille au goré ». Au Moyen-Âge, il était à la campagne élevé par des porchers et à la ville, il vivait dans la rue. Voici ce qu'écrit l'historien Michel Pastoureau dans son ouvrage Le Cochon. Les cochons sont parfois parqués autour de la ferme afin qu'ils n'aillent pas vagabonder tout à loisir dans les champs et dans les vignes. Mais plus souvent, tous les porcs d'un village sont réunis en troupeaux et placés sous la houlette d'un porcher commun qui les met au paisson ou à la glandée. Ce porcher, sorte de fonctionnaire villageois, est souvent un simple d'esprit ou bien un jeune particulièrement pauvre. Lorsque les porcs sont conduits dans la forêt, le porcher ne rentre pas au village tous les soirs, mais dort près de ses bêtes, dans une cabane semblable à celle du charbonnier ou du bûcheron. On compte en général un gardien pour une soixantaine de porcs, c'est-à-dire un porcher pour une trentaine de familles. Le porc médiéval est un animal de la forêt. C'est là qu'il trouve l'essentiel de sa nourriture, notamment les faines sous les hêtres et les glands sous les chênes. À la ville, dans la cité, le porc joue un rôle d'éboueur. Il se nourrit de déchets et d'ordures, ceux des maisons, des boutiques, des foires et des marchés, mais aussi ceux des cimetières. On fera alors entourer les cimetières de murs pour empêcher que les porcs aillent déterrer les cadavres. Le porc est dans la rue, sur les places et les terrains vagues, au bord des rivières, voire dans les parcs et jardins, d'où les abus, les querelles, les accidents. Nombreux sont les procès qui mettent en scène des porcs, ayant visité une boutique, dévasté un jardin, pillé une réserve ou un charroi, blessé, voire dévoré des enfants. C'est ainsi qu'à Bellac, nous dit Paul Malbévaqueur dans son ouvrage « Bellac, les institutions municipales sous l'Ancien Régime », en 1769, les officiers municipaux doivent encore interdire aux particuliers de laisser vaquer, à l'époque on dit vaguer, les porcs dans les rues, et enjoindre aux valets et sergents de la ville de suivre les 10 cochons qui se trouveront ainsi abandonnés jusque dans les maisons où ils se retireront. Les propriétaires seront alors punis d'une amende de 10 livres. Précisons qu'à Bellac, une mesure identique sera prise à l'égard des oies, des cannes et des autres volailles, mais celles-ci seront simplement confisquées.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
En basse marche, le cochon joue un rôle essentiel dans la nourriture des habitants de nos campagnes. Voici le témoignage que l'on trouve dans l'ouvrage de Michel Dupeux et Colette Marceau, Le patois de la basse marche. Pendant des siècles, tuer le cochon correspondait à la fois à une nécessité alimentaire et à une fête. Une nécessité car seule la viande de porc était conservée par salaison puis séchage pour les jambons. Une fête car la famille et les voisins se réunissaient pour tuer le cochon, travailler et s'entraider. La période hivernale, moins chargée de travaux des champs, convenait à cet événement. L'hiver permettait aussi de conserver la viande à une température correcte avant de la transformer et de la salée. N'oublions pas que les réfrigérateurs et congélateurs ne sont apparus dans nos fermes que dans les années 1960, voire 1970. Dans les grandes fermes, les hommes tuaient 2 à 3 cochons par an. En période estivale, la viande refroidissait dans les caves, ou du moins dans les lieux les plus frais de la maison. Une branche de genévrier, placée dans la pièce, dégageait une odeur qui repoussait l'intrusion des mouches. Albert Gourceau nous explique. Pour les besoins de sa famille, qui étaient nécessairement nombreuses et qu'il fallait même renforcer parfois par du personnel domestique, le métayer élevait 2 et le plus souvent 3 ou 4 cochons. Il en élevait un nombre égal pour son maître, qui pouvait soit les sacrifier pour ses besoins personnels, soit les vendre à son seul profit. Et il ajoute: la portée de la truie étant de 112 à 116 jours, et l'usage étant de vendre les porcelets à l'âge du sevrage, c'est-à-dire aux environs de 3 mois, on voit que la truie élevée pour ce commerce donnait un peu moins de 2 portées par an. Le castreur opérait quand les jeunes bêtes soumises à cette opération étaient âgées d'un mois. À ce moment, on commençait à ajouter au lait, qu'elles tiraient de leur mère, une ration de farine ou de son, délayés dans l'eau. Après quoi, au bout de quelques jours, on les habituait aux pommes de terre. Comme ces suppléments de nourriture n'avaient pour objet que de compléter le lait des tétés, ils ne devenaient importants qu'après le sevrage, autrement dit après 3 mois. Et c'est pourquoi il était avantageux de vendre la portée à cet âge. Toutefois, sur les lots nés en août-septembre, chaque exploitant réservait pour sa consommation familiale 1 ou 2 sujets qui, mis à l'engrais, étaient ensuite sacrifiés 15 à 18 mois plus tard, pratiquement entre Noël et le carnaval. C'est ainsi que certaines foires se spécialisèrent dans le commerce des nourrins, comme l'on appelait ces jeunes porcelets. La Souterraine, par exemple, avait son propre champ de foire au cochon.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
On le sait, on n'engraisse pas le Gorée avec de l'eau claire. Les porcs, mis à l'engrais, demeuraient claustrés à l'étable où ils recevaient une nourriture abondante de pâtés de pommes de terre auxquels on incorporait du chon, de la farine de blé noir ainsi que quelques fruits comme des glands et des châtaignes. 2 fois par jour, on obligeait les animaux à une courte promenade hygiénique autour du village ou du coudère. Colette Marceau nous explique que dans la zone de Saint-Sulpice-les-Feuilles, on n'engraisse pas le goré à l'eau claire. Bien avant le jour fatidique de son exécution, le cochon choisi à cet effet était l'objet des soins de toute la famille. Pour nourrir le porc, la fermière préparait et cuisinait régulièrement la beurnade. Dans la grande chaudière aux cochons en fonte, pommes de terre, carottes, choux raves, navets, feuilles de choux, orties, têtes de fougères printanières, additionnées d'eau pour favoriser la cuisson, composaient la beurnade. Que de bonnes odeurs se dégageaient de cette chaudière. Après cuisson, il n'était pas rare d'extraire quelques légumes à consommer en robe des champs par la famille, ceci accompagné d'une bonne crème chauffée. Quel goût merveilleux! Jamais retrouvé, nous disent les auteurs, une vraie Madeleine de Proust. Dans l'Auge, la beurnade était servie au porc avec du chon, du petit lait, voire du lait, ou même de l'eau de vaisselle, sans produits chimiques à l'époque. L'expression « on n'engraisse pas les cochons à l'eau claire » résume bien cette préparation.
À nos maisons on a tué un pourchaud, j'ai ri à l'Amber ou à l'air. À nos maisons on a tué un pourchaud, j'ai ri à l'Armiorin de Plouviot. Avec Stette on a fait un sillon, j'ai ri à l'Amber ou à l'air. Avec Stette on a fait un sillon, j'ai ri à l'Armiorin de Plouviot. Avec Chazorel on a fouet des platiots, j'ai ri à l'Amber ou à l'air. Avec Chazorel on a fouet des platiots, j'ai ri à l'Armiorin de Plouviot.
Cette chanson, dans notre maison nous avons tué le cochon, n'est pas bamarchoise, mais picarde. En effet, il est temps de tuer le cochon.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici ce que nous raconte Charles Sylvestre dans son roman Pleine Terre. Léonard entre dans l'étable où l'énorme porc sommeille dans le brouillard de son haleine. Il le flatte et l'exhorte à se lever, tandis qu'il attache une patte de derrière avec une corde solide. Il crie « Ça y est !» Le cochon s'élance, mais Hubert agrippe l'oreille droite et saisit la patte gauche. Léonard tire brusquement sur la corde, l'animal tombe. Jacquet saute dessus et le maîtrise. Le cochon, habitué à d'autres façons, se met à hurler. On lui ferme le groin au moyen d'une ficelle. Hubert le tâte et déclare qu'il est fin gras. Léonard prend son large couteau et commence à saigner le pauvre cochon, qui fera tant de bien après sa mort. Jeannette, pleurant d'un œil, tend la poêle au filet de sang qui coule et détourne la tête. Elle ne jette qu'un regard furtif. De temps à autre, Elle verse le sang dans une terrine et Léonard serre les lèvres de la plaie sur le couteau fourré de chair. « Ça te fait deuil ?» dit Jacquet à la Jaquette. « Tu as bon cœur. Ah, »« C'est tout de même moi qui l'ai élevé, » répond-elle. « C'était une gentille bête et aimable. » Léonard va couper un bouchon de paille et l'enfonce dans le trou que laisse la lame. Cette fois, le cochon est bien mort. On l'étend sur des barres de bois et Jacquet le couvre de paille. Hubert met le feu et l'on ne voit plus que le museau grimaçant dans une courte flamme d'incendie. Le poêle grille et Jeannette vient balayer l'échine roussie de son élève qui a péri par le feu. Les garçons raclent sa peau avec une boîte de sardines qu'ils ont percée de beaucoup de trous. Cela fait une excellente râpe. Bien entendu, la boîte est vidée de ses petits poissons confits. Jeannette apporte de l'eau chaude. On débarbouille le cochon. Mort, le voilà plus beau que vivant. Tout rose, rebondi, majestueux. « Lavez-lui bien les oreilles, » dit Jeannette, qui rit cette fois. « Ah, ce n'est pas facile !» s'écrie Léonard. On pend sa seigneurie à l'échelle, dans la cuisine. Hubert et Jacquet vont soigner le bétail, mais Léonard, manche retroussée, ouvre le pendu avec précaution. Il prend garde de ne pas crever un seul boyau. Le ventre fume et souffle une épaisse odeur de graisse chaude. L'homme le regarde comme une caverne à trésors. Sa femme recueille dans un grand panier un lourd écheveau de boyaux très embrouillés. Léonard accroche en trophée au clou d'une poutre le foie et les poumons arrachés. Jeannette, aidée de voisines amiteuses, ira bientôt à la rivière pour nettoyer les entrailles. À chacune, il faut une planchette bien lisse, un petit couteau et une baguette d'osier. Les boyaux seront raclés, lavés à pleines eaux, propres, sans odeur. Après la mort du cochon décrite par Charles Sylvestre dans Pleine Terre, transportons-nous dans la région de Roussac avec Louis Peignot. Comme tous les ans pour Carnaval, on tua le cochon à Douai. Françoise s'enfuit en se bouchant les oreilles avec son tablier pour ne pas entendre crier. Les gamins du village, ne voulant rien perdre du spectacle, accoururent. Le porc, grillé et vidé, les femmes reparaissaient pour régner de nouveau dans la cuisine. Elles s'affairaient. Les unes partaient laver les boyaux dans la pêcherie aux eaux glacées sous la pluie ou le grésil. Une autre hachait de la viande, une autre s'attaquait à la couane et à la graisse, tandis que les hommes garnissaient les saloirs après avoir prélevé quelques rôtis. Chaque maison qui tuait apportait deux ou trois côtes de porc à ses voisins. Il convenait donc de rendre dûment pesé bon poids au crochet. L'eau ruisselait sur les larges pavés de granit de la cuisine que les grandes flambées sous les marmites n'arrivaient pas à sécher.
C'est moi le cochon, on dit que chez moi tout est bon, on me préfère en jambon, alors moi je dis non.
C'est toi le cochon, on dit chez toi tout est bon, on te préfère en jambon, alors toi tu dis non.
C'est moi le porc, on veut ma mort, coupée en tranches et rôtie le dimanche.
C'est toi le porc, on veut ta mort, coupée en tranches et rôtie le dimanche.
Tout de suite après, toute la maisonnée se met à la fabrication des boudins, que nous explique Albert Gourceau. On vérifiait l'étanchéité de chaque portion de boyau en le gonflant à la bouche. L'intestin grêle servait ainsi d'enveloppe pour les boudins, tandis qu'on utilisait le gros intestin pour envelopper les andouilles. Dès leur retour à la maison, les femmes commençaient la préparation des boudins. Dans la grande marmite à cuire la pâtée, soigneusement récurée et lavée, on préparait un bouillon destiné à faire subir à la viande soigneusement mise de côté à cet effet une première cuisson. Cette viande était choisie dans la tête et la partie grasse du cou. On y joignait certains viscères tels que le cœur et les poumons. Quand la viande était cuite, elle était hachée puis incorporée au sang. On ajoutait au mélange quelques petits cubes de lard et, chez ceux qui aiment cette préparation, quelques châtaignes blanchies écrasées. Enfin, le tout assaisonné à la demande était brassé longuement à la main pour obtenir une bouillie bien homogène. On prenait alors une tripe d'environ 1 mètre que l'on nouait à l'une de ses extrémités et à l'aide d'un entonnoir à large col, on la garnissait de ce hachis. Tous les 10-12 centimètres, on créait par une légère torsion un étranglement aussitôt noué d'un fil de chanvre. On obtenait ainsi des chapelets de 8 à 10 boudins qu'il ne restait plus qu'à cuire dans le bouillon qui avait déjà servi pour la viande et que l'on avait maintenu devant le feu. Il fallait, bien sûr, éviter que le bouillon entre en ébullition et que les tripes craquent et se vident. Après cuisson, les boudins étaient mis à ressuyer sur une serviette ou une petite litière de paille.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici maintenant comment on décrit la fabrication des boudins dans la région de Saint-Sulpice-les-Failles. C'est dans l'ouvrage de Michel Dupeux, Le patois de la basse marche, voici le texte de Colette Marceau. Dès que les boyaux leur étaient remis, les femmes les vidaient, les déviraient, les grattaient au couteau et les lavaient à la rivière, quelle que soit la saison. L'une d'elles avait la charge de souffler dans chaque boyau pour vérifier qu'il n'était pas percé. Le lendemain, les femmes préparaient les boudins avec le sang récupéré la veille, avec la viande hachée au couteau ou au hachoir manuel à manivelle fixé sur une table, avec les oignons, le thym, le laurier, le sel, le poivre, les épices et même un petit verre d'eau de vie du pays. Il fallait goûter afin de vérifier l'assaisonnement. Autre source de plaisanterie, il fallait donner la mesure, la longueur du boudin. Les femmes ont décidé tout en plaisantant. Il ne faut pas prendre celle du bébé, hein, c'est trop court. En outre, des échanges de boudins avaient lieu entre voisins et il était de coutume de rester dans une norme correcte. Quand cette décision de la mesure était prise, une femme glissait la boudinière, sorte d'entonnoir métallique réservé à la préparation des boudins, dans un boyau noué à l'autre extrémité et le remplissait de la préparation. Une autre femme nouait un fil de loin en loin sur le boyau plein, constituant ainsi les boudins. Afin d'évacuer les bulles d'air qui se formaient, les boudins étaient piqués avec une épingle. Pendant ce temps, dans la grande marmite en fonte noire, suspendue à la crémaillère de la cheminée, le bouillon de cuisson, composé de plusieurs légumes comme pour un potage, mijotait. Puis les boudins y étaient déposés, le bouillon devait frémir, ne pas bouillir, sous peine de faire éclater les boudins. Après la cuisson, les boudins étaient déposés sur de la paille fraîche, étalés sur une table, puis frottés et graissés avec une couenne pour qu'ils reluisent.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon,
la la la.
Le pâte et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon.
Le deuxième jour, on pratiquait la découpe du cochon et la préparation des autres produits. Nous empruntons les informations à Monsieur Marquiset dans son article « La fête du cochon ». Et là, on va voir que tout est bon dans le cochon. Le découpage. Il faut se lever de bonne heure pour couper le cochon. Il est coupé en 2, puis en 4. On prélève le lard et le salé. On met de côté la viande de pâté que l'on prend dans la panne, viande qui se trouve sous les tétines. On tourne les filets et les côtes en rôti. Par contre, ce sont les cuisses de derrière ou une épaule de devant qui serviront à faire les jambons, la graisse. On fait fondre le gras après avoir enlevé la couenne. Et on fait cuire la graisse toute la journée dans la grande marmite des boudins. Pendant ce temps, dans le saloir, on met le salé, le lard roulé dans le sel. Les jambons, eux, doivent s'égoutter pendant 2 jours. Mais il faut brasser la graisse de temps en temps pendant la cuisson. On reconnaît qu'elle est cuite quand on peut se voir dedans comme dans un miroir. Les pâtés. On hache la viande de pâté après avoir salé le lard. On l'assaisonne avec du poivre, des épices, des échalotes, du vin et un peu d'eau de vie. Une partie du foie est hachée et mélangée à la panne. Le lendemain, on fera cuire le hachis 5 ou 6 heures. Ensuite, on le mettra en des pots que l'on recouvre de graisse, pots de terre ou de verre de petite dimension. deux ou trois jours après, lorsque la graisse est coagulée, ces pots seront recouverts de papier attaché avec du raffia, autrefois avec du chanvre. Les andouilles. C'est la couane qui sert à faire les andouilles. Les couanes relevées sont passées au moulin ou anciennement hachées à la main sur le billot. Le hachis est assaisonné de sel et de poivre, puis on le met dans le gros intestin que l'on sale et que l'on dépose dans le saloir une fois rempli. La tête est dépouillée des oreilles, du nez et de la langue. On enlève les dents et l'os de la tête. On détrempe les oreilles, le groin, la langue, auxquelles on ajoute les orteils, dont deux eaux bouillantes pour bien les nettoyer et les peler. Puis une fois refroidies, on les sale. La cervelle est aussi utilisée, on la fait cuire dans une sauce au vin rallongée de pommes de terre. Les grillons, ou les rillettes, c'est ce qui reste de la graisse dans la passoire. On les met au fur et à mesure dans une bassine, la préparation est rapide. Il suffit de les poivrer un peu et de les tasser dans des pots après les avoir écrasés avec une fourchette dans la passoire. La mise en pot s'effectue de la même manière que pour le pâté. Le jambon. On avait mis le jambon égoutté pendant deux ou trois jours. Après ce temps, on compose une mixture de poivre, d'épices, d'eau de vie, dont on frotte la chair à nu. De petits quartiers d'oignons y sont piqués. Puis, on pose le jambon sur un linge et une couche de sel. On le plie dans le sel, on le ficelle et on le met dans un sac. Puis dans une boîte de bois, sur une couche de cendre. On remet de la cendre par-dessus pour éviter la pénétration de l'air et on le laisse là un mois. Ce temps passé, on sort le jambon et on le suspend pour le faire sécher dans la cheminée. Dans l'ouvrage « Le patois de la basse marche », on apprend quelques informations supplémentaires. Le grand couteau que l'on utilise pour tuer le cochon s'appelle le saingoré. La tête de porc bouilli, hachée et assaisonnée permettait la réalisation de succulents pâtés de tête. La couane, conservée dans le sel, accompagnait les repas de haricots secs. Le saloir, où l'on conservait la viande de porc, portait le nom de tine, et malheur à la femme indisposée qui s'approchait de la tine pendant la fête du cochon, car la viande ne se conservait pas. Voilà, après deux jours de travail et de fête, la viande de cochon est préparée, salée. Le paysan y trouvera sa nourriture quasi quotidienne. Il n'aura à aller à la boucherie qu'exceptionnellement pour les grandes occasions et parfois seulement pour carnaval. Une année passera ainsi, pendant laquelle il élèvera un autre cochon qu'il tuera l'hiver prochain aux environs de Noël ou bien pour Mardi Gras. Vous connaissez tous des expressions comme donner de la confiture au cochon, ou nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, ou il ira loin si les petits cochons ne le mangent pas, et bien d'autres encore. Nous en reparlerons dans une de nos séquences de compléments.
Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils sont allés étant venus que sur le soir se sont perdus. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger ?
Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à la fête du cochon en basse marche. Nous avons utilisé les textes d'Albert Gourceau, de Charles Sylvestre, de Louis Peignot, de Monsieur Marquiset, de Colette Marceau, de Michel Dupeux et de Michel Pastoureau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Les Compagnons du Gras Jambon, Maluzerne, aux chanteurs Philippe Boulefroy, Robin Delfon, Juliette et Muriel J, qui nous interprètent en ce moment la légende de Saint-Nicolas. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle séquence. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Si salé, je veux avoir qu'il y a cette enquête au saloir. Quand le boucher entendit ça, bien vivement il se sauva. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Le grand saint étendit trois doigts, les trois enfants ressuscita. Le premier dit j'ai bien dormi, le second dit et moi aussi. Ajoutez le plus petit, je croyais être au paradis. C'était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.